nerfs de cette cathédrale. Et puis à 8h15, je recevrai un écrivain qui vit non loin de Notre-Dame. Il l'a escaladé, il s'y est même fait et refait une santé après une chute. Et il lui livre une déclaration d'amour dans un petit livre intitulé « Notre-Dame, ô reine de douleur, ô reine de victoire ». Sylvain Tesson sera avec nous à 8h15. Bon réveil sur Radio Classique, il est 7h.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Pierre Pilet pour le journal de 7h. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous. Un gouvernement d'intérêt général et 30 mois pour agir. Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir au lendemain de la censure. Ce qu'il faut retenir dans un instant. 20% de patients en plus pour les médecins qui embauchent un assistant. Conclusion d'une expérience de l'assurance maladie. Détail dans ce journal. Réouverture de Notre-Dame. J-1. Vous allez entendre Gauthier Capuçon. Il joue demain soir.
Après le journal éditorial d'Étienne Lefebvre avec les Échos, il nous parlera du Mercosur. Emmanuel Macron a pris la parole hier soir au lendemain de la censure du gouvernement.
10 minutes face aux Français, pas encore de nom pour Matignon, mais 2 volontés affichées par le président, se poser en garant de la nation et envoyer un message à une partie de l'opposition, Charles Ducrot.
Le chantier de la nation comparé à celui de Notre-Dame, on le croyait impossible, nous l'avons fait, lance Emmanuel Macron, plein d'espoir. Un premier ministre sera nommé dans les prochains jours, un budget souhaité dès janvier. Et une démission balayée d'un revers de main, ça c'est pour la visibilité. Pour la lisibilité maintenant, le chef de l'État met les oppositions au pied du mur.
Le gouvernement a été censuré, malgré les concessions faites par Michel Barnier, et parce que des forces qui hier encore gouvernaient la France ont choisi de les aider.
Esquisse une nouvelle organisation politique.
C'est une époque nouvelle qui doit commencer, où tous devront agir pour la France et où il faudra bâtir un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques qui puissent y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer.
Un gouvernement d'intérêt général à qui Emmanuel Macron prête 30 mois pour agir jusqu'à la fin de son mandat avec des accords, des compromis, en clair, la garantie d'une stabilité. Il n'a qu'une obsession, la clarté, lâche son entourage. La dissolution s'inscrivait déjà dans la démarche, précise un conseiller. Mais à culpa, hier soir, le président l'a reconnu. Cette décision était mal comprise.
Emmanuel Macron qui reçoit ce matin les dirigeants des partis du camp présidentiel. À midi, le Parti Socialiste. Cet après-midi, les Républicains. Pas de Rassemblement National ni de France Insoumise. Et d'écologistes. Une loi spéciale sera déposée d'ici la fin de semaine prochaine au Parlement pour assurer la continuité des services publics, annonce par ailleurs Emmanuel Macron. Objectif, permettre à l'État de fonctionner en attendant l'adoption d'un budget. Une continuité qui permet par exemple de financer une expérience en matière de sécurité sociale, l'aide à l'embauche d'un assistant pour les médecins, dispositif mis en place il y a 5 ans. Et ça marche mieux qu'espéré selon l'assurance maladie, Rémi Pfister.
Avec l'embauche d'un assistant médical, les généralistes ont augmenté en moyenne leur patientèle médecin traitant, c'est-à-dire les patients dont ils deviennent référents, de près de 20%. C'est 11 points de plus que l'objectif qui leur avait été fixé par l'assurance maladie. Yannick Paclet et sa femme sont médecins dans une commune de 5000 habitants dans les Ardennes. Il y a 2 ans, ils décident de s'entourer d'un assistant médical, un choix qui leur permet désormais d'accueillir des patients sans délai d'attente.
Nos assistantes reçoivent le patient, elles vérifient que les données administratives soient à jour. C'est elles aussi qui ont pris les rendez-vous du jour, donc du coup elles savent les motifs. Donc s'il y a besoin de faire des examens comme une bandelette urinaire par exemple, etc., elles les font en amont. Elles prennent toutes les constantes, mesurent et pèsent les gens, prennent les tensions. Et nous on arrive pour la partie vraiment où on va pouvoir faire le diagnostic et mettre le traitement. On est passé de consultations qui nous durent habituellement 20 minutes à des consultations toujours de 20 minutes, mais où la présence du médecin n'est que de 10 minutes. Donc du coup, on peut voir plus de gens sur le même temps grâce à l'assistante.
Un gain de temps énorme et une aide de 38 000 euros versée par la Sécurité sociale la première année, qui se stabilise ensuite à 22 000 euros par an. Seul bémol, le nombre de recrutements. Le gouvernement avait tablé sur 10 000 embauches d'assistants médicaux. Il plafonne actuellement à 7 250.
La grippe de retour, Santé publique France place l'Île-de-France en phase d'épidémie. 5 autres régions sur le point de la rejoindre. Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est.
Radio Classique, il est 7h04. Les agriculteurs maintiennent la pression.
Des membres de la Confédération paysannes ont manifesté au Grand Palais à Paris. Hier, ils ont déposé des bottes de paille devant le bâtiment dans lequel se tenait une réunion européenne d'acteurs de la filière céréale. La présidente de la Commission européenne, elle, se rend en Uruguay aujourd'hui pour faire avancer le projet d'accord de libre-échange entre l'Union et les pays du Mercosur. La ligne d'arrivée est en vue. Travaillons ensemble, franchissons-la. Message posté par Ursula von der Leyen. Cet après-midi, elle s'exprime aux côtés des présidents argentins. argentin et brésilien. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, veulent finaliser l'accord avant le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis.
C'est son premier déplacement dans l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est à Malte depuis hier. Il assiste à une réunion de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Présent également à ce sommet, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, ainsi que le secrétaire d'État américain. Tout cela illustre un changement de posture, c'est ce que nous dit Ulrich Buna, analyste géopolitique et spécialiste de la Russie.
Il ne faut pas s'attendre à de percées diplomatiques, mais en revanche, le simple fait d'avoir toutes ces personnes au sein du même bâtiment fait qu'effectivement, il y aura peut-être des contacts indirects ou via des intermédiaires, et c'est symbolique, en fait, ça montre aussi que les Russes deviennent un petit peu moins fréquentable. On est dans une période où la plupart des interlocuteurs perçoivent qu'avec l'arrivée de Donald Trump, on va changer, on va dire, de paradigme par rapport à la guerre en Ukraine, avec deux lignes en parallèle un peu contradictoires, c'est-à-dire sur le terrain une accélération militaire pour essayer d'arriver dans la meilleure position possible pour les deux protagonistes, et d'autre part, effectivement, une réouverture des canaux diplomatiques pour essayer justement de préparer les discussions après le 20 janvier.
Des propos recueillis par Fabien Albert.
Ça y est, ça approche, la réouverture de Notre-Dame, c'est demain soir.
Le roi de Belgique et la reine, les présidents italiens, allemands, Donald Trump, la présidente de la Commission européenne, tous font partie de la quarantaine de chefs d'État, de gouvernement, d'institutions qui seront à cette cérémonie de réouverture. Ils pourront, par exemple, écouter un artiste que vous connaissez sur Radio Classique. Gauthier Capuçon va jouer lors du concert prévu à partir de 21h. C'est une soirée pleine d'émotions qui s'annonce.
Ça sera évidemment pas un concert comme tous les autres. La charge émotionnelle sera très forte. Cette cathédrale Notre-Dame est présente dans le cœur de toutes et tous, qu'on soit croyant ou non croyant. Donc je pense que c'est très important de rassembler aussi dans la programmation musicale. Il y aura plusieurs espaces où les musiciens vont se produire. Il y aura un espace devant, sur le parvis de la cathédrale, et puis dans la cathédrale. Alors, on est au mois de décembre, donc pour nous, pour ceux qui vont jouer en tout cas sur le parvis, la difficulté, ça sera bien sûr le froid, en espérant qu'il ne pleuve pas.
Ouais, entre 5 et 10 degrés prévus demain soir, avec sans doute de la pluie. Gauthier Capuçon, que vous retrouvez avec ses carnets tout à l'heure à 17h sur Radio Classique, et puis dans le journal de 8h, nous allons vous emmener près du grand orgue de Notre-Dame.
Merci, rendez-vous à 8h, Pierre, à suivre l'éditorial avec les échos. Ursula von der Leyen se passerait bien de la France pour finaliser l'accord du Mercosur. Radio Classique, 7h07.
Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Chez Poltrone Sofa, les belles surprises ne se terminent jamais. Prolongation exceptionnelle de la remise de 30% sur tous les canapés qu'on présentait en magasin. N'est-ce pas magnifique ? Et si les surprises ne se terminent jamais, la remise de 30% par contre se termine demain. Oltre le sofa, solo divani di qualità. Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Cerise de Groupama nous dit où trouver de nouvelles idées pour investir.
Vous avez vendu votre entreprise, Fabien ?
Oui, Cerise. Et maintenant, je cherche les meilleures options d'investissement.
Connaissez-vous Groupama Asset Management, spécialisée en placement financier ? Depuis 5 ans, elle est reconnue meilleure société de gestion d'actifs en Europe par European Funds Trophy.
Merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller en gestion de patrimoine.
Groupama Asset Management, investir pour l'avenir.
Plus d'infos sur groupamaam.com. Groupama AM est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir présente des risques de perte en capital.
Et si vous profitiez du plaisir de rouler en DS dès maintenant ?
DS Automobile présente
les journées exclusives DS. Les vendredis 13 et samedi 14 décembre, profitez d'offres privilégiées sur nos modèles disponibles immédiatement, comme DS3 Édition France 100% électrique, produite à Poissy, à seulement 315 euros par mois. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Dans la limite des stocks disponibles.
DS Automobile.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé,
j'agis.
Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer assurer mon avenir.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Et avec AJP, retrouvez le décryptage du lundi au vendredi à 7h54 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h10, l'éditorial, Étienne Lefebvre.
Avec France Valais. Investissez dans la forêt en France et en Europe.
Bonjour Étienne.
Bonjour David.
Malgré le veto français, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut finaliser aujourd'hui en Uruguay l'accord commercial avec le Mercosur.
Oui, et c'est tout un symbole de la perte d'influence de la France, qui ne date pas de la motion de censure, mais qui semble s'accélérer depuis la chute du gouvernement Barnier. Alors que le Premier ministre remettait sa démission hier midi à l'Elysée, Ursula von der Leyen affichait son enthousiasme sur les réseaux sociaux à l'idée de boucler enfin cette négociation cruciale pour l'Europe. La France, du premier quinquennat Macron, moteur politique et économique de l'Europe, aurait sans doute eu l'autorité pour empêcher un tel scénario, mais la parole du chef de l'État porte moins, et le duo franco-allemand est en veilleuse depuis longtemps. Le prochain gouvernement devra surtout dépenser beaucoup d'énergie à Bruxelles pour faire accepter le nouveau dérapage budgétaire qui se profile.
Et le déclassement français, dites-vous, se concrétise aussi de plus en plus sur le terrain économique.
En réalité, cette glissade a vraiment commencé à l'annonce de la dissolution en juin. Depuis, les taux d'intérêt français sont passés au-dessus de ceux de l'Espagne, du Portugal et même de la Grèce. La Bourse de Paris, quant à elle, a décroché par rapport aux autres places européennes, à l'image d'une économie en passe de perdre son leadership en matière d'attractivité. De fait, la France pourrait redescendre très vite les marches qu'elle avait difficilement montées depuis 2017, sachant qu'aucune décision d'investissement ne peut être prise dans un épais brouillard fiscal. Un attentisme qui prévaut aussi chez les Français, au point que certains économistes commencent à parler de récession technique cet hiver, à savoir deux trimestres d'affilée de recul de l'activité. Bref, un scénario noir. Alors si aucune solution miracle n'est attendue du prochain gouvernement, le chef de l'État se doit d'agir vite pour redonner au pays un minimum de stabilité politique et éviter que la glissade s'accélère.
Étienne Lefebvre pour l'éditorial avec les Échos. Les Échos qui titrent ce matin sur le coût économique de la censure. Étienne, bon week-end. À suivre, les voix de l'économiste Stéphane Pedrazzi reçoit aujourd'hui François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir. Il est 7h12. Tout de suite, l'essentiel de l'économie. Et à la une ce matin, le prix de l'incertitude politique pour l'économie française. Plusieurs instituts ont revu leurs prévisions de croissance à la baisse après la censure du gouvernement Barnier. L'OFCE corrige sa prévision de 0,1 point cette année et de 0,3 pour l'an prochain. L'Union européenne est sur le point de signer l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée hier en Uruguay. La France est toujours opposée à cet accord. Canal+ ne sera plus diffusé sur la TNT à partir du mois de juin 2025, la chaîne a décidé de ne pas renouveler sa fréquence à l'expiration de l'autorisation actuelle. La décision concerne également trois autres chaînes du groupe sur la TNT payante. À suivre, les voix de l'économie, François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, va nous expliquer pourquoi les marchés financiers restent calmes malgré l'incertitude politique.
On peut penser que le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, ce n'est pas le meilleur moment pour s'offrir une voiture. Ou on peut se rendre chez Dacia et profiter de 2 mois de loyer offert sur toute la gamme pour toute commande du 4 au 9 décembre.
Valable pour toute commande d'une Dacia neuve en location longue durée. 3e et 4e loyer offert. En fin de contrat, paiement des frais de remise en état plus kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau Dacia participant du 4 au 9 décembre. Si accordiaque, voir Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Depuis 180 ans, le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, accompagne ses clients sociétaires dans la gestion de leur patrimoine. Assurance vie, épargne retraite, placement financier, mais également une solution d'épargne originale, la Tontine. Le Conservateur propose un accompagnement personnalisé aux épargnants et dirigeants d'entreprises partout en France. Nous donnons de la valeur au temps.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h14, les voix de l'économie. Stéphane, votre invité, le directeur de la rédaction du magazine Investir.
Bonjour François Monnier.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. L'incertitude politique en France n'affole pas les marchés financiers. On est très loin de la tempête qui avait été annoncée par Michel Barnier. Pour quelle raison?
Oui, c'est un calme en apparence seulement.
Pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'on peut observer, c'est que depuis la dissolution, les marchés intègrent un risque politique en France, et ce risque, il est matérialisé par un CAC 40, par exemple, qui recule de près de 10% depuis la dissolution de juin, alors que Wall Street a gagné près de 15%, que le DAX 40, les valeurs allemandes, ont progressé de près de 10%, et que les autres places financières européennes sont en hausse. Donc, on n'a pas de chute au lendemain de la censure, mais depuis juin, on assiste à une glissade du CAC 40. Et le tribut est encore plus lourd pour les valeurs moyennes cotées à la Bourse de Paris. Parce que les valeurs moyennes, bien sûr, réalisent davantage de chiffre d'affaires, de revenus en France, sont plus exposées aux risques politiques français. Et les valeurs moyennes, eux, ne sont pas dans le CAC 40, mais sont dans un autre indice qu'on appelle le CAC Small, qui les fédère. Et le CAC Small, lui, a perdu depuis l'annonce de la dissolution, toujours pas comprise par les investisseurs. Eh bien, depuis cette dissolution, le CAC Small a perdu plus de 20%. Donc, on voit que la sanction, elle est quand même là, même si ça n'a pas forcément fait réagir le marché au lendemain de la censure. Et puis, dernier argument, le fait que le gouvernement Barnier tombe, eh bien, ça remet aussi en cause son projet, toujours pas non plus compris par les investisseurs, de taxation du Made in France, puisqu'il voulait taxer, surtaxer les entreprises qui produisent et qui vendent en France pour récupérer les recettes fiscales.
Donc un soulagement sur le plan fiscal, néanmoins l'absence de budget pour l'instant pour 2025, ça n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour notre économie et par effet de ricochet pour les marchés.
Bien sûr, parce que là on voit qu'il y a une incertitude politique, il y a une incertitude fiscale, budgétaire, une incertitude aussi économique. On l'a vu avec les dernières prévisions de l'OCDE qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie française. Et normalement, en 2025, il a attendu une progression du PIB de seulement 0,9%. Donc c'est l'épaisseur du trait, alors que la croissance mondiale est plutôt aux alentours de 3,3%, que la croissance américaine est attendue à 2,4% et que dans la zone euro, on vise 1,3%. Donc on voit que nous, on est en retard. Et ce retard, il devient inquiétant.
Cet épisode confirme que les crises politiques pour les marchés financiers ne sont jamais aussi violentes que les crises financières. Pour quelles raisons ?
Disons que les investisseurs ne comprennent pas forcément toujours les décisions des hommes politiques. Ce sont des décisions parfois pas rationnelles. Et les investisseurs, eux, ont besoin de décisions rationnelles. Et donc, finalement, ils attendent les actes pour éventuellement juger, sanctionner ou pas tel ou tel programme. Ce qu'on peut voir, c'est que dans l'histoire, on a déjà eu des crises politiques. J'en citerai 4, 2 en France et 2 au Royaume-Uni. La crise qui a le plus marqué, bien sûr, les investisseurs, c'est l'élection de François Mitterrand le 10 mai 81. Ça avait entraîné un plongeon du marché. Hein. En l'espace d'une semaine, la Bourse de Paris avait perdu 17%, 32% en un mois. Et il avait fallu 2 ans pour effacer cette chute. C'est la sanction politique qui a généré le plus de dégâts économiques et financiers. Autrement, la dissolution voulue par Jacques Chirac en avril-mai 97, finalement, ça a eu un impact extrêmement bref. Le CAC 40 a glissé de 6%. Et un an après les élections, la bourse, elle aura rebondi de près de 50%. Ça, c'est pour l'exemple français. Si on se regarde de l'autre côté et du côté de Londres, on voit que le référendum au Brexit, ça a fait beaucoup d'encre. Le FTSE, certes, la bourse, la City, a perdu près de 9%, mais les pertes ont été effacées quasiment au bout de 6 mois. Donc on voit que le Brexit avait été un peu survendu. En revanche, et c'est l'exemple peut-être le plus intéressant, c'est le passage éphémère au pouvoir de Liz Truss en septembre 2022. Là, on a une première ministre, Liz Truss, qui arrive à la tête du Parti conservateur au Royaume-Uni suite à la démission de Boris Johnson, qui était éclaboussé par des scandales. Et cette première ministre arrive le 6 septembre 2022. Elle restera au pouvoir que 45 jours. Pourquoi ? Parce qu'elle propose un budget qui n'est pas finançable. Et là, on le voit, et c'est la nouvelle donne, et c'est très intéressant, c'est que finalement, les marchés, eux, ils disent non.
Ouais,
ils
votent non. Violente réaction sur le marché obligataire.
Voilà, les taux s'emballent, et donc finalement, elle peut plus tenir. Et là, c'est là qu'on voit que les États qui sont endettés, les États qui ont des déficits, chaque jour qui passe, ils perdent de leur souveraineté. Et quand les marchés disent non, tout de suite, c'est l'agonie financière et on peut pas faire tout ce qu'on veut, même s'il y a des hommes politiques et des partis politiques qui expliquent qu'ils peuvent tout faire. Après, il y a un vrai retour à la réalité et ça peut être très violent.
Vous êtes directeur de la rédaction du magazine Investir, des conseils toutes les semaines dans les kiosques le samedi. On fait quoi dans ce contexte ? Qu'est-ce qu'on achète ?
Mais on essaie d'être plutôt diversifié. Alors, on parle beaucoup dans les placements de diversification sectorielle, diversification de produits, mais il y a aussi la diversification géographique.
Alors, je sais que vous aimez bien le marché espagnol.
Voilà, il y a la diversification géographique. Par exemple, sur l'Espagne, il y a des très belles valeurs. On voit que l'économie espagnole a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, ils ont des taux à 10 ans largement inférieurs aux taux français. Et donc, il y a des très belles sociétés, là aussi, dans les indices. On a du Iberdrola, par exemple, dans l'énergie. On a Amadeus dans les logiciels pour les réservations pour le tourisme. Donc on essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a de bien chez nos voisins suisses avec Novartis, chez nos voisins danois avec Novo Nordisk, BAE System à la City. Donc voilà, on essaie de regarder un petit peu ce qui se fait de bien pour diversifier et essayer de réduire ce risque politique en France.
Et ce sera à découvrir dans le magazine Investir qui sera au kiosque demain. Merci beaucoup François Monnier d'être venu ce matin sur Radio Classique.
Merci à tous les deux et Stéphane, je vous dis rendez-vous lundi à 6h pour le tour de l'actualité économique. À suivre les coulisses de la politique, mais tout de suite, et si on parlait français, Karine Dijoux, Radio Classique, 7h20. Bonjour Karine.
Bonjour David.
Question fréquente aujourd'hui posée par nos auditeurs, allez-y.
Est-ce qu'on doit dire sous l'Empire II ou sous l'Emprise II ?
Ah !
J'ai d'ailleurs une auditrice qui m'a dit « Je n'en peux plus d'entendre les journalistes qui disent « sous l'empire de l'alcool ». Eh bien, je lui ai répondu que pourtant, c'était la tournure correcte. Quand on veut être précis et les plus puristes en la matière, il faudrait dire « sous l'empire d'eux ». Parce qu'on est sous l'empire d'une substance, d'un sentiment, mais on est sous l'emprise d'une personne ou d'un groupe. Ainsi, on sera sous l'empire de la drogue ou de la colère, mais sous l'emprise de son frère ou d'un groupe sectaire.
Ah, c'est nuancé, quoi.
Oui, hein, c'est ça que j'aime dans la langue française. Et le mot « emprise » a longtemps été condamné par les grammairiens d'ailleurs, mais il est aujourd'hui admis. Donc si vous souhaitez cultiver un langage plus soutenu, vous pouvez lui préférer aussi « domination »,« influence », »,« pouvoir ». Néanmoins, il n'est aujourd'hui pas incorrect de dire « sous l'emprise de l'alcool ». Les deux sont permis, sous l'empire d'eux ou sous l'emprise d'eux.
Doit-on dire 57 000 postes de conseillers municipaux ou 57 000 postes de conseiller municipal ? Je me suis posé la question la semaine dernière.
Eh bien, dans ce cas inutile de tergiverser, il faut le mettre au pluriel. On n'insiste pas ici sur la fonction et il n'y a pas de distributif. Un distributif, c'est chaque, par exemple, si on disait chaque poste de conseiller municipal. Donc le mot doit être mis au pluriel. C'est la même chose quand on parle de 4 000 postes de professeur. Là, on met bien un S à professeur.
Un dernier pour la route, si j'ose dire. Doit-on dire rouvrir ou réouvrir ?
Alors certes, on parle de réouverture, mais le verbe correspondant est bien rouvrir. Pourquoi ? Parce que les deux mots n'ont pas été formés à la même époque et n'ont donc pas eu la même formation. Mais je vous l'accorde, ce n'est pas évident et il serait plus logique d'avoir le verbe réouvrir. Pourtant, pour l'instant, il n'est pas du tout dans l'usage et il n'est pas dans les dictionnaires non plus. Donc c'est rouvrir.
Je vous dis à lundi, ma chère Karine, pour d'autres conseils d'usage du français.
Merci, à lundi.
À lundi.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Dis donc, tout le monde parle de Bitcoin, de crypto, moi j'y comprends rien.
Fais comme moi, passe par CoinHouse. C'est sérieux, des experts t'accompagnent et en plus c'est français.
Ah, c'est rassurant ça.
Bien sûr, avec CoinHouse, tout est clair, accessible. C'est l'idéal pour acheter des cryptos.
Redis-moi comment ça s'appelle ?
CoinHouse, comme dans Bitcoin.
CoinHouse SAS, 14 avenue de l'Opéra, Paris 1er. La crypto-monnaie présente un risque de perte en capital lié à la volatilité des cours et à la cybersécurité. Plus d'infos sur coinhouse.com.
La meilleure façon de profiter de la fin du bonus écologique 2024, c'est d'aller chez Ford et découvrir le nouveau SUV Explorer 100% électrique avec jusqu'à 602 km d'autonomie. À partir de 249 € par mois, jusqu'au 31 décembre seulement.
Ford. Offre pour Explorer RWD Standard N 170 chevaux avec 378 km d'autonomie cycle mixte WLTP, LLD 36 mois 30 000 km, premier loyer de 4 490 €, aide gouvernementale déduite si accord Bremen-Lise SAS. Détails sur Ford.fr. Pensez à covoiturer.
Ça y est, les cadeaux de Noël, c'est reparti pour un tour. Le même parfum pour ma mère, ma sœur qui a toujours un truc à redire en mode « Sérieux, c'est mon cadeau là ?» Et mon père, le roi des « Oh merci, fallait pas !» À force, je vois bien que bah oui, fallait vraiment pas. Alors cette année, Noël, ce sera chez Cultura ou sur cultura.com. Avec leurs petits mots coup de cœur et leurs milliers d'idées cadeaux, on est sûr de passer un Noël culturel et plein d'esprit. Un Noël où même ma sœur restera sans voix. Cultura, la culture avec un grand A.
À suivre les coulisses de la politique, une partie de la gauche se dit ouverte à la modération.
Peugeot. Vous êtes sur la route et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si maintenant je vous dis que vous pourriez repartir au volant de cette 208, en version électrique, hybride ou thermique, et en plus, disponible immédiatement à partir de 130 euros par mois seulement, ça aussi c'est pas mal, non ?
LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 3400 euros pour une 208 style essence 9 en stock sous conditions de reprise. Réservé aux particuliers jusqu'au 15 décembre si acceptation crédit part. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h25, les coulisses de la politique avec Marcelo Vesfred du Parisien aujourd'hui en France qui met en couverture le titre suivant, crise politique consternant. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
Après la censure, de nombreux dirigeants socialistes, écologistes et communistes se disent ouverts à un pacte de non-agression avec les forces du bloc central. C'est inattendu.
Oui, d'ailleurs, les insoumis ont immédiatement crié à la trahison. Moment critique donc pour le nouveau Front populaire, car à midi, Olivier Faure, mais aussi les patrons des groupes parlementaires du PS à l'Assemblée et au Sénat, Boris Vallaud et Patrick Kanner, sont reçus à l'Élysée et à leur demande. Je rappelle quand même qu'en novembre 2023, Olivier Faure avait séché la réunion organisée par Emmanuel Macron avec les oppositions à Saint-Denis. C'est dire le revirement. Alors pourquoi ? Les socialistes se disent qu'il y a un espace pour revenir au pouvoir, comme les LR l'ont fait en septembre. Ils savent aussi que si le blocage perdure, s'il y a une nouvelle censure, leur électorat ne leur pardonnera pas d'avoir installer un désordre durable.
Alors que vont-ils dire au chef de l'État les yeux dans les yeux ?
Un macroniste au fait des discussions apporte ces précisions. Les socialistes veulent négocier un contrat. Ils veulent obtenir des gages pour couper le cordon avec LFI. Ils vont demander au chef de l'État de s'engager à ne plus dissoudre. Ils lui demanderont aussi la proportionnelle aux législatives pour éviter d'être obligé de retourner dans l'alliance du NFP. Ils voudront aussi obtenir un engagement du président à ne plus autoriser de 49.3 et un accord pour que la réforme des retraites soit gelée pendant 3 ans. Pas sûr évidemment qu'Emmanuel Macron accède à leur demande. Et il aurait des raisons de traîner les pieds, je cite un proche. Ils ne peuvent pas s'allier au RN le mercredi pour ensuite, quand le cadavre est encore froid, dire « on pourrait faire quelque chose ensemble ». Pour autant, le président ne peut pas balayer cette initiative, lui qui appelle à un gouvernement d'intérêt général. Ajoutez à cela que ça bouge aussi côté communiste et même chez l'écolo Marine Tondelier. Elle propose aux macronistes un plan d'urgence pour les Français. Et hier, elle a échangé avec François Bayrou et avec Édouard Philippe à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Voilà comment elle a justifié ces bougies spectaculaires. Au fond, David, c'est un peu comme si la censure avait provoqué un effet boomerang sur une partie de la gauche consciente qu'elle a dégoupillé une grenade qui peut à tout moment l'emporter.
Les coulisses de la politique avec Marcelo Vesfred qu'on retrouve dès lundi à 7h25. Merci Marcelo. Tout de suite, le temps.
Avec la Banque Transatlantique, donnez de nouveaux horizons à vos projets d'investissement.
Bonjour Charles Bonner.
Bonjour David, bonjour à tous.
Quelques nuages et de la douceur.
Des nuages accompagnés de quelques averses des Pyrénées au massif central ailleurs. Des éclaircies et partout de la douceur entre 13 et 15 degrés dans le sud-ouest. Ce matin, dans l'après-midi, le ciel reste gris sur trois quarts des régions. Les températures au milieu de la journée, 9 à Lille, 13 à La Rochelle, 11 à Lyon et jusqu'à 17 à Montpellier.
Les entreprises engagées en action avec Delville Management, cabinet de management de transition, Fabrice Lundy.
Julien Blanchard est le président et cofondateur de Hoffmann Green Cement Technologies, une jeune PME vendéenne pionnière dans la conception d'un ciment bas carbone. Julien Blanchard.
Ce dont je suis fier, c'est de produire les premiers ciments décarbonés sans clinker. Le clinker, c'est le calcaire cuit à haute température à 1450 degrés durant 18 heures par les cimentiers traditionnels. Chez Hoffmann, on n'a pas de cuisson cuisson. Tout se fait à froid. On divise par 5 les émissions de CO2 par rapport au ciment traditionnel. Et ce sont des ciments de qualité identique, voire largement supérieure. Et nous faisons en fait notre place sur le marché de la construction et du bâtiment. On vient de signer 2 contrats de licence, un en Arabie Saoudite et un autre aux États-Unis.
L'engagement de Julien Blanchard, le président de Hoffman Green Cement Technologies.
Delville Management, cabinet engagé de management de transition, vous accompagne dans les enjeux stratégiques de vos transformations. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Le journal à 7h30, Charles Bonnel.
Avec à la une ce matin, la recherche d'une sortie de crise avant la nomination d'un Premier ministre. Un gouvernement démissionnaire s'occupe des affaires courantes. Il ne manque que la signature, l'accord entre l'Europe et le Mercosur dans sa dernière ligne droite. Et puis à la veille de la réouverture de Notre-Dame, la cathédrale a retrouvé sa silhouette, manque désormais ses fidèles.
Ça va pas tarder. Après le journal L'Écho du Monde, Trump, un Américain à Paris, suivi du journal Imprévisible consacré à la cathédrale et son histoire. Et puis Canal+ quitte la TNT, le décryptage de David Barou pour décrypter la chaîne cryptée. La démission de Michel Barnier est donc actée.
Son remplaçant ne sera nommé que dans quelques jours par Emmanuel Macron qui, dans une allocution hier, souhaite un gouvernement d'intérêt général. Le président reçoit ce matin les partis qu'il soutiennent, puis les socialistes à midi avant les républicains dans l'après-midi. Première étape pour un accord de gouvernement, ou du moins de non-censurabilité. D'ici là, Michel Barnier reste à la tête d'un gouvernement démissionnaire, Lucie Dupressoir.
Il n'y a pas de texte juridique qui encadre ce qu'un gouvernement démissionnaire peut faire, mais c'est l'usage qui a façonné ses compétences, celle de gérer les affaires courantes, c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'administration et tout ce qui ne demande pas une appréciation politique. Le Premier ministre peut par exemple signer des décrets pour appliquer une loi votée avant la motion de censure et continuer ses déplacements. Traditionnellement, le gouvernement ne dépose pas de projet de loi, le Conseil des ministres ne se réunit pas, même si rien ne l'interdit. En cas d'urgence, un attentat ou une catastrophe naturelle par exemple, évidemment, les ministres restent mobilisés pour prendre toutes les mesures consensuelles qui s'imposent et que n'importe quel autre gouvernement aurait prises. S'agissant du budget, le projet d'une loi spéciale permettant la levée des impôts peut être déposé au Parlement. Selon une note du secrétariat général du gouvernement datant de cet été, il peut aussi procéder par ordonnance. Ce serait alors une première.
Gouverner par ordonnance qui reste tout de même limitée. Pourtant, les urgences sont là. Sur le budget, il faut au moins une loi spéciale pour autoriser la levée de l'impôt. Elle devrait être présentée, selon le président, mi-décembre à l'Assemblée nationale. Autre urgence, l'assurance chômage. Le gouvernement démissionnaire promet d'appliquer les nouvelles règles issues de l'accord entre les partenaires sociaux, mais il n'est pas encore entré en vigueur, Zoé Pallier.
C'est une course de vitesse, alerte un représentant syndical, car les règles de l'assurance chômage doivent changer au 1er janvier prochain. Pour gagner du temps, le gouvernement démissionnaire se charge donc de valider l'accord des partenaires sociaux, considérant qu'il s'agit là d'affaires courantes. Mais certaines mesures ne pourront pas de toute façon s'appliquer. Celle par exemple qui devait réduire l'indemnité des frontaliers, compliquée juridiquement à mettre en place, ou encore celle qui faisait passer de 6 à 5 mois la durée minimale pour s'inscrire à l'assurance chômage, car cela doit impérativement passer par un projet de loi. Idem pour les mesures sur l'emploi des seniors, comme l'accès dès 60 ans à la retraite progressive. Sur les retraites, justement, le gouvernement Barnier voulait ouvrir des discussions pour aménager la réforme de 2023. Il n'en aura pas eu le temps. Quid de la réunion multilatérale prévue dans quelques semaines? Je pense que ça tombe à l'eau, estime un cégétiste.
Et in extremis, le gouvernement a signé un décret pour prolonger le dispositif MaPrimeRénov' avec les mêmes règles l'an prochain qui autorise des subventions pour les monogestes, le simple remplacement de fenêtres par exemple, et pas seulement pour les rénovations globales.
Une nouvelle étape vers l'accord avec le Mercosur.
En personne, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est en Uruguay pour le sommet de cette alliance de pays d'Amérique du Sud, où elle estime que la ligne d'arrivée se rapproche. La France reste opposée et espère toujours trouver une minorité de blocage au prochain Conseil européen. Mais cette avancée dans les discussions est une illustration de la perte d'influence française en Europe, mais surtout, Eric Kioch, de la victoire sur ce sujet de l'industrie chimique et pharmaceutique allemande.
Parmi les grands gagnants de ce traité, BASF et Bayer, les deux vaisseaux amiraux de la chimie allemande, pourraient voir leurs activités boostées. Selon l'étude d'impact publiée par la Commission européenne, la réduction de 90% des droits de douane pourrait engendrer un surplus d'exportation de produits pharmaceutiques et chimiques de 47% depuis l'UE vers le Mercosur et de 13% dans le sens inverse. Or, le Brésil est le premier consommateur mondial de produits phytosanitaires, une place amenée à se renforcer car avec l'accord de libre-échange, la demande européenne pourrait croître de 30 à 64% pour la viande bovine sud-américaine, par exemple. D'ailleurs, BASF a anticipé et a augmenté ses capacités de production dans son usine près de Sao Paulo. Problème, cette aubaine économique est aussi un danger sanitaire. 30% des engrais utilisés au Brésil sont interdits en Europe et si aujourd'hui des résidus de ces produits se retrouvent dans 12% des exportations brésiliennes à destination des assiettes européennes, demain, ce chiffre pourrait bondir en parallèle de l'intensification des échanges.
En Syrie, les rebelles continuent d'avancer. Ils ont pris le contrôle hier de Hama, la quatrième ville du pays, et se dirigent désormais vers Homs et donc vers la capitale Damas. Cette nuit, des frappes ont visé un pont entre Hama et Homs pour freiner leur progression.
Le pape adresse un message aux Français.
Il sera lu demain par l'archevêque de Paris pour la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement seront présents pour assister à cet événement 5 ans après l'incendie. Toute cette semaine, Radio Classique vous a fait rencontrer des artisans. Ils sont 2000 à avoir travaillé sur le chantier. Ce matin, un couvreur qui a reconstruit la charpente pour faire renaître la flèche qui avait disparu dans les flammes. Des travaux à 96 mètres de hauteur. Émile Armand Benoît est donc ce couvreur meilleur ouvrier de France.
De Noël 2023 jusqu'à fin février 2024, nous étions là-haut par tous les temps. Une journée classique commençait vers 7h du matin jusqu'à 17-18h. Il faut imaginer que la météo là-haut n'est pas du tout la même qu'en bas. C'est-à-dire que s'il faisait bon et que le vent était modéré, là-haut il n'y avait aucun obstacle pour contrer le vent. Et lorsque la pluie s'accompagnait de cette petite brise, il était difficile de tenir, mais on était là-haut et on continuait afin que les délais soient tenus. Il fallait être efficace. L'hiver n'était pas le meilleur moment pour réaliser cette tâche, mais le calendrier ne nous permettait pas d'attendre 6 mois pour attendre les beaux jours. C'était assez intense. Donc là, la première partie, donc la partie aiguille, a été faite cet hiver. Et l'hiver qui arrive, donc là, à partir de janvier, nous allons commencer la seconde partie qui est la base de la flèche. Jusqu'à la fin du printemps, certainement. Ce sera le plus vite possible.
Le couvreur Émile Armand Benoît avec Lauriane Toulmont et puis les Jeux de Paris les plus suivis de l'histoire. 5 milliards de téléspectateurs cet été à la télé ou sur Internet. Selon le président du Comité international olympique, chaque spectateur a regardé en moyenne 9 heures de compétition. Et puis un mot de la fusée européenne Vega C. 2 ans après son échec, elle est parvenue à mettre en orbite un satellite hier qui doit fournir des données sur l'évolution du climat.
Merci Charles. Vous revenez à 8h30 pour nous donner des données sur l'évolution de l'information. À suivre, l'écho du monde, Notre-Dame. Pourquoi Trump a-t-il fait le voyage? Radio Classique, 7h37.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
La meilleure façon de profiter de la fin du bonus écologique 2024, c'est d'aller chez Ford. Et découvrir le nouveau SUV Explorer 100% électrique avec jusqu'à 602 km d'autonomie. À partir de 249 euros par mois, jusqu'au 31 décembre seulement.
Ford. Offre pour Explorer RWD Standard N 170 chevaux avec 378 km d'autonomie cycle mixte WLTP, LLD 36 mois 30 000 km, premier loyer de 4 490 euros, aide gouvernementale déduite si accord prémanilise SAS. Détails sur Ford.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Cette semaine dans Le Point, c'est le grand retour du palmarès des hôpitaux et des cliniques. 1400 établissements comparés dans 136 classements et 85 spécialités, c'est l'édition la plus complète à ce jour. Plébiscitée par de nombreux professionnels, c'est la référence pour trouver les meilleurs soins selon votre pathologie. Le palmarès des hôpitaux, un numéro du Point à se procurer de toute urgence.
Et voilà, papa a profité de l'offre de la deuxième paire offerte chez Atoll. Et il a décidé de l'offrir à...
La femme que je préfère dans tout l'univers.
Mais voilà, la femme que papa préfère dans tout l'univers, c'est...
Ta mère? Non, tu les as offertes à ta mère?
Ce n'est pas maman.
En ce moment, bénéficiez de la deuxième paire offerte pour vous ou pour un proche chez votre opticien Atoll. Élu meilleure chaîne de magasins 2025, catégorie optique, pour la 7e fois consécutive. Atoll. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voire sur atoll.fr.
Dans un instant, l'écho du monde, Christian Macarian, un Américain à Paris, c'est Donald Trump.
on peut penser que le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, ce n'est pas le meilleur moment pour s'offrir une voiture. Ou on peut se rendre chez Dacia et profiter de 2 mois de loyer offerts sur toute la gamme. Pour toute commande du 4 au 9 décembre. Valable pour toute commande d'une Dacia neuve en location longue durée. 3e et 4e loyer offerts. En fin de contrat, paiement des frais de remise en état plus kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable, réservée aux particuliers dans le réseau Dacia participant du 4 au 9 décembre. Si accordiaque, voir Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Il est 7h39, on retrouve Christian Macarian avec joie pour l'écho du monde. Bonjour Christian.
Bonjour David.
Une cinquantaine de souverains, de chefs d'État et de chefs de gouvernement se retrouveront demain à Notre-Dame de Paris. C'est une sorte de G50, dites-vous. Pourquoi cet événement prend-il une dimension internationale?
Notre-Dame est infiniment plus qu'un monument. C'est un point de ralliement qui attire en France la part raisonnable d'un monde déchaîné. C'est la boussole de la paix au cœur des déchirements planétaires. Volodymyr Zelensky, par exemple, sera présent. Manière de rappeler que chaque année, un office est célébré pour commémorer le Holodomor, le génocide par la famine organisé par les autorités soviétiques en 1932-1933, qui a fait 3 à 5 millions de victimes. Une cinquantaine de grands noms seront présents demain à Paris. Les présidents italiens, Sergio Mattarella, ou brésilien, Lula, la présidente de la Grèce, le roi Abdallah de Jordanie, et descendant du prophète, et le roi Mohamed VI du Maroc, lequel avait déjà représenté son pays à Notre-Dame à l'âge de 10 ans lors des obsèques de Georges Pompidou.
Et il semble qu'une place à part soit faite aux Américains.
Incontestablement, sur les 850 millions d'euros de dons recueillis à travers le monde, près de 60 millions d'euros proviennent des États-Unis, premier pays étranger donateur. On compte 45 000 donateurs américains contre 5 000 issus d'autres pays. Il y a de très gros mécènes issus de la finance ou du milieu des assurances, mais aussi des instances religieuses, comme le diocèse de New York, sans oublier les multinationales géantes comme Walt Disney, Bank of America ou encore American Express qui ont chacune offert plusieurs millions d'euros. À cela s'ajoute une imprégnation culturelle. Pas moins de 10 films ont été consacrés au roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, dont une version américaine fabuleuse de 1939 avec le prodigieux acteur Charles Laughton dans le rôle de Quasimodo. En 1996, les studios Disney en ont tiré un film d'animation, Le Bossu de Notre-Dame. Et Notre-Dame de Paris apparaît par ailleurs comme décor de Minuit à Paris de Woody Allen ou du fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Tout cela sans compter le jeu vidéo Assassin's Creed Unity, un best-seller total. Même Elon Musk s'est emparé du sujet en diffusant des images piratées de Notre-Dame avant la visite d'Emmanuel Macron. Enfin, facteur supplémentaire, pour beaucoup d'Américains, les images de l'incendie de 2019 ont rappelé l'effondrement des tours le 11 septembre 2001, en particulier la chute de la flèche de Notre-Dame. Il n'y a finalement rien de surprenant à ce que Donald Trump ait annoncé sa venue, je cite, pour assister à la réouverture de la magnifique et historique cathédrale Notre-Dame.
Alors moi j'ai une question, est-ce qu'il est impensable d'imaginer que Donald Trump, après avoir été atteint par une balle à l'oreille pendant sa campagne présidentielle, est-ce qu'on peut imaginer que Donald Trump ressente une sorte de gratitude?
Écoutez,
envers le bon Dieu.
Écoutez, David, soyons clairs. Aucun signe de sainteté n'a été détecté chez Donald Trump après l'attentat qui l'a visé, bien au contraire. Mais qui sait? Les voies de Dieu sont impénétrables. En tout cas, les analyses électorales l'ont prouvé. L'électorat catholique américain, qui a boudé clairement Kamala Harris et son insistance sur le droit à l'avortement, a nettement fait pencher la balance en faveur de Trump. Washington vaut bien une messe.
Christian Macarian pour l'Écho du Monde. À demain, Christian. À suivre, le journal imprévisible revient sur l'histoire de cette cathédrale Radio Classique, 7h43.
Les entretiens présentent Vivre avec l'intelligence artificielle.
Didier Truchot, vous êtes le président d'Ipsos et vous venez de publier une enquête intitulée « Vivre avec l'intelligence artificielle ». On y apprend que l'IA suscite autant d'inquiétude que d'enthousiasme.
L'intelligence artificielle provoque l'inquiétude de beaucoup de personnes à travers le monde quand on l'évoque, disons, en général. Par contre, lorsqu'on parle des usages possibles pour améliorer les traitements médicaux ou les programmes d'enseignement, l'intelligence artificielle est publicitée, donc elle est crédible. Cela étant, en France, une partie importante des personnes interrogées reste plus inquiète qu'ailleurs.
Face à cette inquiétude particulièrement manifeste donc en France, quelles sont les attentes ?
La réaction à ça, c'est la nécessité d'une protection. Et la protection, c'est l'État qui, dans l'esprit des gens, doit la procurer. La majorité des gens veulent, en effet, qu'il y ait une régulation des usages de l'intelligence artificielle.
Merci Didier Truchot.
Retrouvez les entretiens le 5 décembre au Collège des Bernardins et le 6 décembre à l'Abbaye de Royaumont. Plus d'informations sur lesentretiens.com avec Radio Classique.
Chez Poltron Sofa, les belles surprises ne se terminent jamais. Prolongation exceptionnelle de la remise de 30% sur tous les canapés qu'on présentait en magasin. N'est-ce pas magnifique? Et si les surprises ne se terminent jamais, la remise de 30% par contre se termine demain. Poltron Sofa, solo divan di qualità. Et voilà!
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
À 28 ans, Alexis voulait acheter son premier appartement, mais il lui manquait un apport pour son crédit. Quant à ses parents, ils n'avaient pas assez pour l'aider. Alors au cabinet Bougardier, nous leur avons proposé un prêt hypothécaire garanti sur leur résidence principale. Les parents ont ainsi libéré de la trésorerie pour l'apport d'Alexis et leur fils est maintenant propriétaire. Comme pour Alexis, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Et si vous profitiez du plaisir de rouler en DS dès maintenant ?
DS Automobile présente
les journées exclusives DS. Les vendredis 13 et samedi 14 décembre, profitez d'offres privilégiées sur nos modèles disponibles immédiatement, comme DS3 Édition France 100% électrique, produite à Poissy, à seulement 315 euros par mois. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr, dans la limite des stocks disponibles.
DS Automobile.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. C'est la dernière ligne droite avant la réouverture officielle de Notre-Dame de Paris demain. Discours présidentiel, messe inaugurale, une séquence forte de plus pour cette cathédrale qui, bien avant l'incendie de 2019, Notre-Dame avait traversé des siècles de notre histoire.
Et vous entendez là les cloches de Notre-Dame, des cloches qui sonnent la libération de Paris en direct à la radio. Nous sommes le 24 août 1944.
Par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris.
Ouvrez les cloches!
Moment émouvant, un des nombreux instants où Notre-Dame a changé le cours de l'histoire de France.
Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois ?
J'accepte.
Notre-Dame de Paris s'était déjà illustrée plusieurs siècles en arrière. 1572, le mariage d'Henri IV et de Marguerite de Valois, déclencheur des massacres de la Saint-Barthélemy. Notre-Dame, ses cloches, son décorum, immortalisé aussi par le peintre David. Le 2 décembre 1804, le sacre de Napoléon, c'est un tableau célèbre de 10 mètres sur 6 exposé au musée du Louvre et c'est une composition Gloria Patria commandée à l'italien Giovanni Paisiello. Il faut imaginer cette musique dans le cœur de la cathédrale il y a 220 ans. Des messes pour des personnalités politiques ont aussi été célébrées à Notre-Dame. 2 millions de personnes rassemblées aux funérailles de Sadi Carnot en 1894. En 1970, le monde entier se retrouve à l'hommage à Charles de Gaulle. Une messe en Mondovision, suivie en direct par près de 300 millions de téléspectateurs.
Sur le parvis, il s'arrête quelques instants, tous ces personnages illustres se saluent. Le protocole oublié un instant réunit dans la même émotion ceux qui ont franchi parfois des distances considérables pour s'associer aujourd'hui au deuil de tous les Français.
Dans l'assistance, Richard Nixon, le Shah d'Iran, le prince Charles et plusieurs chefs d'État africains avaient fait le déplacement. Vingt-cinq ans plus tard, délégation là encore pléthorique pour les funérailles de François Mitterrand. Vous entendez là Barbara Hendricks interpréter le Requiem de Gabriel Fauré. Un moment et des images fortes, ce 11 janvier 96.
Parmi les chefs d'État et de gouvernement venus rendre un dernier hommage à François Mitterrand, le chancelier allemand Helmut Kohl, ému jusqu'aux larmes. Les hasards du protocole ont voulu que le président cubain Fidel Castro soit placé au premier rang, aux côtés du prince régné de Monaco.
Sur la tour de Notre-Dame, viennent dormir les oiseaux.
Notre-Dame, c'est un édifice célébré en musique et en poésie. Suzy Solidor rend hommage aux oiseaux de la cathédrale quand Édith Piaf nous parle d'un personnage bien connu.
Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, il y a un colossal qu'on a plein le dos, porter Notre-Dame.
Et oui, vous l'avez reconnu, j'en suis sûr, David. On parle bien là de Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, à l'honneur aussi dans les comédies musicales.
Elle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle.
Quasimodo, Notre-Dame de Paris, inspiré évidemment du roman de Victor Hugo. Hugo qui, dès 1831, plaidait avec son livre pour la restauration de l'édifice religieux. Notre-Dame de Paris, ce sont aussi des adaptations au cinéma. Je vous épargne le dessin animé Disney, je vous épargne Quasimodo d'El Paris. Je vous propose en revanche le film de Jean Delannoy en 1956, Gina Lollobrigida, Anthony Quinn, Esmeralda Quasimodo et les cloches.
Pourquoi te caches-tu ?
Non.
Tu as peur que je te regarde? Dans un pays où tout le monde serait bâti comme toi. Moi, on me jetterait des pierres.
J'ai toujours été laid. J'ai toujours fait peur. Ça me fait de la peine.
Regarde.
Notre-Dame et la musique, c'est enfin son orgue. Quelques notes du grand orgue de Notre-Dame, ses 115 jeux, ses 8000 tuyaux venus du XVIIIe siècle qui vont de nouveau résonner à partir de ce week-end sous la direction d'Olivier Latry.
Notre-Dame de Paris par Marc Bourreau, le journal imprévisible à retrouver sur radioclassique.fr. Notre-Dame de Paris à la une du supplément du Parisien aujourd'hui en France, le supplément week-end. Et puis Sylvain Tesson à 8h15 sera dans ce studio, il nous parlera de sa remise en forme à Notre-Dame de Paris, cathédrale qu'il a également escaladée, il vit tout à côté et il lui consacre un livre. Allez, à suivre le décryptage de David Barrault.
Le grand concert de Noël de Radio Classique vous donne rendez-vous à Paris. Venez fêter Noël avec les plus grands compositeurs et écoutez en famille les plus beaux chants de Noël. Une soirée merveilleuse avec le clarinettiste Pierre Génisson, l'orchestre Consuelo dirigé par Victor-Julien Laferrière et le chœur de l'Université PSL. Le grand concert de Noël de Radio Classique, présenté par David Abiker, les 14 et 15 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservation 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Le concert de Noël, en partenariat avec le Conservateur, 180 ans d'expertise personnalisée au service de votre patrimoine. Nous donnons de la valeur au temps.
Renault. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique jusqu'à 410 km d'autonomie et fabriqué en France.
Profitez de Renault 5 E-Tech électrique avec borne de recharge offerte et jusqu'à 4000 euros de bonus écologique. Borne d'une valeur de 990 euros hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 décembre, voire conditions sur service-public.fr et Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge.
Dans Challenge, cette semaine, dossier spécial école de commerce avec les classements des écoles avec prépa, les post-bac, les bachelors et en prime, les Sciences Po et les universités les plus cotées, ainsi qu'une sélection de doubles diplômes. Challenge, spécial école de commerce, en vente dès aujourd'hui.
Face à la dureté de la vie, il n'y a pas de plus beau cadeau que de vivre la même enfance. Quand les parents ne peuvent plus s'en occuper, SOS Village d'Enfants réunit les frères et sœurs sous un même toit pour qu'ils grandissent ensemble. Accompagnés par un père ou une mère SOS qui veille sur eux, ils retrouvent un cadre familial stable et apprennent à croire en leurs capacités. Pour que frères et sœurs partagent la même enfance, il faut tout un village, des professionnels de l'enfance et vous. Rendez-vous sur notre site sosve.org.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AGP, vous êtes assuré et associé.
David Barou à 7h55. Bonjour David.
Bonjour David.
Ce matin, vous décryptez la chaîne cryptée. Pourquoi Canal Plus a annoncé hier qu'il quittait la TNT payante?
Sur la TNT, en fait, il y a deux types de services. Il y a les chaînes gratuites et les chaînes payantes. Mais la TNT, globalement, c'est un mode de diffusion déclinant. Et la TNT payante en particulier, elle est encore plus. La télévision, on la regarde comment? De plus en plus via les box des opérateurs télécom ou via Internet, des téléconnectés, et puis le satellite, fait encore de la résistance. Il y a moins de demandes qu'avant pour la TNT parce que les nouveaux modes de diffusion sont boostés par le déploiement de la fibre et sont plus pratiques pour la télévision de rattrapage, par exemple. Et puis, il y a aussi un problème d'offre, sur la TNT, le nombre de canaux, c'est limité, La TNT payante, en plus, n'a jamais très bien marché et il n'y a que 4 chaînes Canal+, la chaîne classique, le numéro 4, et puis les chaînes cinéma, sport, planète, qui sont des déclinaisons. Il y a aussi Paris Première, qui est une chaîne payante, mais tout ça, ça ne suffit pas à vendre des bouquets. Pour le groupe Canal, la TNT payante, ça représente des dépenses pour seulement 70 000 clients, donc ça ne vaut plus le coup.
Alors, est-ce que Canal va faire des économies en quittant la TNT payante?
Dans un premier temps, d'ici juin prochain et l'arrêt du service, il va falloir accompagner les clients, les faire migrer sur de nouveaux modes de réception pour ne pas les perdre. Ça va d'abord coûter de l'argent avant d'en faire économiser avec la baisse des frais de diffusion. Mais cela s'inscrit dans un plan d'économie, plus global. L'an prochain, vous vous en souvenez, le groupe Canal va aussi perdre la fréquence sur laquelle il diffusait gratuitement la chaîne C8, qu'on leur a retirée à cause des excès de Cyril Hanouna. Sur la TNT, il ne leur restera plus que CNews qui va bien et la petite C-Star qui va pas très bien. Canal va devoir réduire la voilure et va lancer un plan d'économie. Ils vont sans doute faire partir plusieurs centaines de personnes. Il faut avoir en tête que Canal+ va bientôt quitter le giron de sa maison mère Vivendi pour devenir une entreprise indépendante cotée à la Bourse de Londres. Et pour séduire les investisseurs, il faut améliorer la marge. Et pour cela, toutes les sources d'économies potentielles sont bonnes à prendre.
Alors sur la durée, l'arrêt de la TNT est donc une, selon vous, c'est une bonne décision.
Il y a un risque que je mesure encore un peu mal. En étant sur la TNT, Canal+ ressemble encore un peu à TF1 ou à M6, des chaînes classiques. S'ils ne sont plus que sur les services numériques, ils vont ressembler plus à Netflix. Cela aura des conséquences fiscales et réglementaires car les acteurs historiques de la télé et les streamers, comme on les appelle, n'ont pas les mêmes obligations, contraintes ou avantages. Canal+ pourrait y gagner sur certains points mais peut-être en perdre sur d'autres. Par exemple, aujourd'hui, ils sont les seuls à pouvoir diffuser à la télé des films seulement 6 mois après leur sortie en salle contre 17 mois pour Netflix. Il faudra voir s'ils peuvent garder cet avantage en quittant la TNT. En contrepartie, ils auront peut-être aussi moins d'obligations de financement du cinéma en particulier. On n'a pas encore tous les éléments pour savoir ce que cette décision changera vraiment sur la durée.
Et donc, ils renoncent au bouton 4 de la télécommande.
Ça, c'est bon. Pas la réponse. Je vous le dirai plus tard, quand je le saurai.
David Barou sur Radio Classique à 7h50. On le retrouve dès lundi à suivre Franck Ferrand et un 6 décembre qui a marqué l'histoire. Voici venir le point du jour. Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Aujourd'hui nous fêtons un saint, nous sommes le 6 décembre.
Bah oui, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui.
Ah bah oui, c'est vrai. Bah
tout simplement, bien sûr. Oui. Et vous imaginez bien que tous ceux qui nous écoutent dans l'Est de la France sont en fête aujourd'hui, mais aussi au Benelux, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Russie, même dans le nord de l'Italie, Saint-Nicolas, c'est le grand saint de l'année, n'est-ce pas? En fait, c'était un évêque de l'Est de l'Empire romain qui est mort à Myre en 343. Myre donc en Lycie, dans l'actuelle Anatolie, en Turquie si vous voulez. Il avait été emprisonné sous le règne de Dioclétien, connu pour avoir combattu le paganisme, pour avoir sauvé la vie de 3 officiers romains injustement condamnés. Mais vous allez me dire quel rapport avec le Père Noël, hein.
On est
un peu loin,
oui.
Alors, tout est parti de Lorraine, en fait, au XIe siècle exactement, quand le sieur de Varangéville va rapporter une relique du saint qu'il avait dérobée à Bari. Et il fait bâtir une basilique, Saint-Nicolas de Port. Et sur les murs, on représente la légende des 3 officiers romains. Et la convention, à l'époque, c'était de faire figurer les gens dans leur taille en fonction de leur importance. Et les 3 légionnaires, ben, c'est pas des gens importants, donc ils étaient tout petits. Et peu à peu, on a cru que c'était des enfants, et voilà. D'où est née toute cette légende, hein, de fil en aiguille. On a imaginé ces enfants tués, découpés, cuisinés par un boucher, ressuscités par Saint-Nicolas. Et voilà comment il est devenu le patron des enfants. Et dans les Flandres belges et françaises, le 6 décembre a été, à partir de là, l'occasion de réjouissance, de distribution de cadeaux. Alors, c'est vrai que Saint-Nicolas se bat encore hardiment aujourd'hui, mais il faut reconnaître que la concurrence est rude avec le Père Noël du 25 décembre.
Mais si ça permet de faire la fête deux fois, c'est très bien. Et aux enfants d'avoir plus de cadeaux, pourquoi pas. Franck Ferrand, notre cadeau à nous, c'est de vous retrouver à 9h pour Franck Ferrand raconte. La météo tout de suite, pardon.
Avec la Banque Transatlantique, donnez de nouveaux horizons à vos projets d'expatriation.
Pierre Pilet, le temps du mieux dans la moitié nord.